Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
L'URSS a implosé après 70 ans de marxisme-léninisme et des millions de morts. Les langues se sont alors déliées en partie pour raconter ce qui fut une véritable tragédie. Les écrits de toutes sortes ont fleuri, études historiques, témoignages, romans, mais rares sont les récits où les faits glaçants sont traités avec un tel humour, une telle ironie, qu'ils en deviennent d'ailleurs d'autant plus percutants. Le roman intitulé « Les services compétents » est ainsi drôle, moqueur, corrosif même. Il est édité chez POL et nous avons le plaisir de recevoir son auteur, Yegor Gran. Yegor Gran ou Grand ? Plutôt Gran.
Gran ?
Gran. D'accord. Yegor Gran, bonjour, parce que c'est votre nom de plume.
C'est le nom de ma femme. Je lui ai demandé l'autorisation de prendre son nom quand j'ai commencé à écrire. Elle a hésité, puis elle a dit oui.
Vous n'avez pas voulu garder votre nom russe. Vous avez gardé le prénom.
Oui, le prénom, il est vraiment estampillé russe. Oui. Mon nom est très, très russe. C'est pas un secret, hein, c'est Sinievski.
Et oui, mais, qui est connu déjà par votre père.
Voilà, il y avait déjà un écrivain Sinievski. Oui. Pourquoi faire un deuxième, à la limite? Bon, ben voilà, Gran.
Alors, j'ai dit drôle, moqueur, insolent. Il faut dire que vous avez de qui tenir. Tel que vous décrivez votre mère particulièrement.
Ah ben, les deux parents. Mon papa commence par provoquer les autorités en faisant passer des récits satiriques et fantastiques en Occident sous pseudonyme. Et ma mère, elle...
reçoit six membres du KGB d'une manière très désinvolte. Oui, et c'est ainsi que commence l'ouvrage.
Le récit commence par la perquisition, en fait, le 8 septembre 1965, quand les agents du KGB viennent. Le matin, ils ont arrêté mon père sur le chemin de l'université où il allait enseigner. Et l'après-midi, ils viennent, à 15h30, ils viennent sonner chez ma mère et moi. J'avais 9 mois.
Voilà.
Et ma mère... elle s'attendait à l'arrestation. Il s'attendait à... C'est quelque chose, d'ailleurs, c'est le mystère qui m'a fait réfléchir à écrire ce livre. C'est comment les textes sont édités, sont publiés pour la première fois en 1959 par la revue Esprit en France, et il n'est arrêté qu'en 1965. Donc, les services secrets, le KGB, qui n'est pas réputé pour être quand même nié, ont mis 6 années à arrêter ce type qui n'est pas un espion ni rien du tout, qui est une espèce d'intellectuel.
Le secret avait été très bien gardé.
Oui, voilà. Oui, le secret.
Donc vous avez fait une enquête ?
Ah oui, enfin c'est pas vraiment une enquête parce que j'ai vécu dans ça depuis que je suis tout petit.
Et puis, vos parents vous ont raconté quand même ?
Bien sûr. Bien sûr, mais pas immédiatement. Ils m'ont raconté en fait l'histoire, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait que quand on est arrivé en France, enfin plus précisément dans le train qui, à la frontière, quand on a quitté l'Allemagne de l'Est pour entrer en Allemagne de l'Ouest, en 1973, c'est là qu'on m'a raconté une partie de l'histoire.
Oui, je pense raconté par vos parents, parce que votre père, par exemple, au sorti du goulag, va dire que ça a été la période la plus formidable de sa vie. Et je me dis, mais c'est vrai, après avoir lu votre ouvrage, on se dit, il s'est retrouvé avec des gens qui parlaient librement.
Alors ça, et puis aussi, humainement, mon père redoutait évidemment la déportation. Qui ne la redoute pas ?
Évidemment.
On lui avait dit, par ailleurs, que par exemple, les droits communs sont excessivement violents, ce qui est vrai, et qu'un intellectuel comme lui allait... morflé,
tabassé,
comme on dit.
Oui. Oui.
Et bien, pas du tout. C'est le contraire qui s'est passé. Tout simplement parce qu'il a plaidé non coupable à son procès. Donc, le procès Sinievski-Daniel a eu lieu en 1966. Il a plaidé non coupable pour la première fois à un procès officiel. Quelqu'un plaidait non coupable. Et automatiquement, les journaux, la Pravda, les Izvestia, ont titré « Ce traître à la patrie ose en plus se moquer de nous en niant ses crimes ». Or, dans tous les camps de concentration soviétiques, tous les jours, il y avait les Izvestia et la Pravda qui étaient placardés. On était en quelque sorte forcés de les lire. Mmh. Et évidemment, quand ils voient arriver le type qui a osé, le type sur lequel on déverse tant d'ordures dans la presse, ils l'ont accueilli en héros. Et donc, ça s'est plutôt bien passé.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Alors, plusieurs choses. D'abord, raconter l'histoire de mes parents, de cette traque par les services secrets.
Oui, c'est le fil conducteur, d'ailleurs, de votre ouvrage.
Oui, et puis parce qu'il y avait ce mystère, je voulais comprendre comment ils ont fait, pourquoi ils mettent autant de temps. En principe, cette affaire aurait dû être pliée en 6 mois. Il faut quand même se rendre compte que le KGB a des indices partout. Toute l'intelligentsia est moisie de l'intérieur et pourrie de l'intérieur par des indices qui vont livrer des noms qui disent périodiquement, voilà, il faut aller surveiller celui-là. Ou...
On pourra parler de la délation au sein même des groupes justement intellectuels ou artistes. Il y en a partout.
Bien sûr, bien sûr.
Ils sont rémunérés, ces délateurs ?
Alors, des fois oui, des fois non. Et puis, alors, rémunérés... Alors, cultiver son réseau d'indics, c'est vraiment la chose la plus importante pour un agent du KGB, pour un lieutenant du KGB, puisque sa progression hiérarchique dans l'entreprise va être fonction du nombre et de la qualité de ses indics.
Alors d'ailleurs, pardon, je vous interromps juste un instant, on va suivre un jeune lieutenant qui est plein d'avenir, et on va voir qu'il va progresser. Et grâce justement à ses indices et grâce à sa volonté acharnée de découvrir le coupable entre l'auteur de ses livres.
Oui, le lieutenant Ivanov, c'est son vrai nom, Yevgeny Fedorovich Ivanov. Oui, il a existé et tous les personnages ont existé tout simplement parce que je les ai repris sur le protocole de perquisition signé donc par ma mère et contresigné par les agents du KGB. Quand on vous confisque des livres, des manuscrits, on vous laisse un protocole de perquisition où on vous dit tout ce qui a été confisqué. Et c'est signé donc par le lieutenant Ivanov, le lieutenant Kulakov, le capitaine Nikonovitch, etc. Et donc moi, j'ai repris ces personnages-là. Le lieutenant Ivanov faisait là ses premières armes en tant que jeune officier du KGB. C'est un personnage historique tout à fait réel puisqu'il va en plus grimper la hiérarchie du KGB, il va finir général, commandant la 5e section du KGB, chargé de la lutte contre les dissidents. Et là, on sera déjà à la fin des années 70. Mmh. Et donc là, tout jeune, il fait ses premières dents, ses dents de lait. Il les use sur le cas de mon père.
D'Abraham Terts, il ne sait pas qui il est. En tout cas, on sait que c'est un nom d'emprunt. Alors, on part du côté de la revue Esprit, qui existe toujours d'ailleurs, qui est une revue qui, à l'époque, était dirigée par Domenac.
Oui, exactement. Hein,
qui soutient d'ailleurs les dissidents. Il les aide.
À l'époque, il n'y a pas vraiment de dissidence. Le mot d'ailleurs dissident n'existe pas. Il voit arriver... Jean-Marie Domenac voit arriver ce texte incroyable, non signé. À l'époque, il n'y avait même pas de pseudonyme, c'était anonyme, qui traite sur un mode ironique, sarcastique, du réalisme socialiste, donc un traité d'esthétique. Il se dit, très bien, je vais le publier dans la revue Esprit. Et c'est là le début de qui est cet homme, qui a osé. D'abord, comment fait-on pour envoyer un manuscrit derrière le rideau de fer, ce n'est pas simple.
Oui. Alors donc, il va y avoir une enquête. L'affaire est dévoilée, et là, il y a beaucoup de passages drôles. Je ne vais pas tous les énumérer, bien entendu, pour nos auditeurs. Ils liront votre livre. Mais cette affaire est dévoilée en URSS, dans un comité d'écrivains soviétiques, donc. Et il y en a un qui dit... Parce que d'autres disent, il est peut-être juif, ou alors peut-être que même c'est un Français. Il y en a un qui dit, mais avis que les services concernés l'ont déjà repéré. Ils ne vont pas tarder à le « quick ». Bon, je pense que pour votre père qui était présent, ça a dû faire un choc. Alors, il va réaliser qu'il y a une diffusion internationale. Alors là, terrorisme par voie de littérature. Moi j'avoue que on est confondu quand même devant. Mais ça existe encore.
Oui,
choses comme ça. Pas forcément en Russie, mais je crois qu'il y a des comportements qu'on peut retrouver ailleurs.
Oui, alors mon papa, il aimait bien cette idée de
terrorisme,
d'écrivain criminel. Il défendait toujours l'idée qu'un écrivain est toujours un criminel. Et s'il n'est pas un criminel, c'est pas un bon écrivain. Enfin, criminel au sens où il est contre quelque chose ou qu'il est subversif d'une manière ou d'une autre.
Qui pose des questions au lecteur.
Oui. Il est criminel dans ses écrits, mais il est criminel aussi par le fait même d'envoyer son manuscrit en Occident, sans l'autorisation, bien entendu, des services. Et ça, c'est criminel. Faire passer un texte en Occident, c'est criminel.
Oui, oui, c'est ça. Alors, un vieux sage de cette assemblée d'écrivains dit donc, mais avis que les services concernés, c'est-à-dire les services compétents. Et c'est le titre de votre ouvrage, Services compétents, c'est le KGB.
Oui, bien sûr, les services compétents. Alors, j'aimais bien ce titre, les services compétents, parce qu'en fait, il y a une sorte de... On utilise ce terme aussi en France, hein. Peut-être pas pour les services secrets, mais on dit, ça flaire bon la bureaucratie. Hein, c'est-à-dire, laissez votre CV, on va le montrer aux services compétents. Voilà, il y a un peu... je pense que les bureaucraties du monde, de toutes les époques et de tous les pays se ressemblent un petit peu. Et donc, moi, j'aimais bien ce terme,
services compétents. Oui, parce que compétents, on ne peut pas aller contre eux, ils sont compétents.
Oui, il y a ça. Et puis, je trouve que dans un titre comme ça, on entend aussi l'antiphrase qui est qu'ils sont incompétents. Oui. Et ils vont montrer qu'ils sont compétents et incompétents, puisqu'ils mettent 6 années à arrêter un intellectuel, qui était là, sous leurs yeux.
Et ce qu'il y a de drôle aussi, c'est qu'en fait, cette enquête qui en mine certains, de temps en temps, elle va se ralentir. Il y a d'autres choses plus urgentes, et en particulier pour Ivanov, qui va être envoyé. Enfin, on va en parler. Est-ce que des gens croient-ils qu'ils veulent tirer le meilleur parti de la situation? Justement, pour Ivanov, je me suis dit, il est ambitieux, ce garçon. Alors, peut-être qu'il a la foi dans le communisme, dans le marxisme, mais quand même, il est ambitieux, il veut y arriver.
Il est ambitieux, mais il y a une hiérarchie au-dessus de lui. Il est lieutenant. Lieutenant, ce n'est pas non plus un grade incroyable. Il est tout jeune diplômé de Sub2K, l'école supérieure du KGB. C'est pas du tout un nom inventé, hein. Ça s'appelle comme ça en russe, Vyshka KGB, donc l'école supérieure du KGB, contraction Sup2K. Voilà. Alors, il vient juste de sortir de là. Quand on est jeune diplômé, c'est comme chez nous, les instituteurs ou je sais pas, les profs, on vous envoie dans le lycée le plus pourri pour enseigner, en gros. Oui. Et là, c'est pareil, on va lui confier les missions les plus...
Qui l'éloigne de chez lui.
Voilà, qui le font dormir dehors par moins 20, etc.
Et d'ailleurs, justement, on parlait du fil conducteur de cette enquête pour découvrir qui se cachait derrière Abraham Terz. Et tout au fil de cette enquête, dans votre ouvrage, se retrouvent des événements. Et alors, ces événements... ils ont existé. Moi, j'ai vérifié quand même tout ça. Alors, évidemment, les dialogues du KGB, c'est très drôle, mais je pense que ça, vous les avez inventés. Mais je pense que ça représente certainement des caractères.
Alors, j'ai inventé, et oui et non, parce qu'en fait, je me suis beaucoup documenté. J'ai lu, je connais maintenant le fonctionnement du KGB de cette époque.
Est-ce que vous êtes allé ensuite, vous, en URSS?
Non, mais j'avais pas besoin. Oui. En fait, j'ai lu toutes les mémoires éditées par les anciens du KGB.
Ils ont en plus écrit leurs mémoires.
Oui, au début des années 90, plutôt à la fin des années 90, pardon, au début des années 2000, tous les anciens généraux, etc., pour survivre, en fait, ils se sont dit, c'est super intéressant ce que j'ai à raconter, j'ai vécu quand même cette guerre froide de l'intérieur, je vais raconter comment ça s'est passé. Et ils ont sorti un nombre considérable d'ouvrages, ont été écrits, et ma mère, grande fan du KGB, a acheté tous les livres possibles, et donc on les a à la maison, et j'ai tout lu. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de les trouver, d'ailleurs, hein, parce que le KGB s'est transformé en FSB,
oui.
Et le FSB s'est refermé.
Il contrôle, oui.
Il s'est refermé, et c'est de nouveau une sorte de boîte noire, on ne voit rien dedans.
Oui.
Mais voilà, donc pour comprendre, qu'est-ce que c'est être un lieutenant du KGB
la
en
mentalité,
1960, sur quelle mission on travaille, de quoi on parle à la cantine du KGB, qu'est-ce qu'on y mange? De quoi on discute, quelles sont les attitudes. Par exemple, j'ai découvert que l'alcoolisme, le fameux alcoolisme russe, était aussi présent au sein des services. Et c'était un problème. Et que faisait-on quand un camarade lieutenant se mettait à boire? Eh bien, il fallait vite le prendre un petit peu sous son aile, essayer de le, comme un vrai camarade, essayer de le sortir de là, avant que, par exemple, la haute hiérarchie s'en aperçoive et qu'il soit viré.
Dangereux.
Voilà.
Oui, évidemment.
Et puis, vous imaginez un agent secret qui boit, c'est, oui, ça peut être catastrophique pour les services.
Oui.
Voilà, donc toute la vie au quotidien...
Oui, de... même dans leur relation personnelle, ouais, voilà.
Oui, dans le même, y compris, leur, par exemple, leur sexualité
oui,
aussi.
Oui, oui.
Qu'est-ce que c'est la sexualité en Union soviétique au début des années
oui,
60
oui. Tout est sous contrôle, doit être sous contrôle.
Alors, la sexualité, ça échappe forcément au contrôle, mais il n'empêche que les soviétiques de l'époque, par exemple, font l'amour dans le noir. C'est clair, en faisant le
oui,
moins de bruit possible.
Et puis, un d'entre eux a une maîtresse, et ça, ça les inquiète.
Bien sûr, c'est immoral.
Et oui.
Un vrai communiste...
C'est dangereux.
Un vrai communiste doit être fidèle. Mmh. Il doit être fidèle au parti, et par ricochet, en fait, en quelque sorte, doit être fidèle aussi... à sa oui. promesse oui. vis-à-vis de sa femme.
Oui.
Et donc, s'il en vient à trahir sa femme avec une autre, on peut se demander comment il se comporterait-il
oui.
s'il
voilà.
est, voilà, par rapport à la patrie.
Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'ils se contrôlent mutuellement. Et en voyant les discussions qu'ils ont entre eux dans les dialogues, on voit aussi qu'ils font très attention quand même, qu'il n'y ait pas de choses qui leur échappent.
Bien sûr, bien
parce
sûr.
Que parce que la délation, elle existe même au milieu d'eux.
Ah bah évidemment, les services se surveillent les uns les autres. Il y a aussi, on a peur aussi de l'agent double, le fameux agent double,
oui,
celui
oui.
qui fait semblant d'être de notre côté, mais qui en fait travaille pour une puissance étrangère, ce genre
oui,
de choses.
Oui, oui.
Donc,
oui, vous parlez de l'affaire Penkovsky.
Oui, Oleg Penkovsky.
Et oui, qui a existé.
Bien sûr, c'est un énorme
oui.
espion. Enfin,
ouais,
dans les
ouais,
affaires
ouais.
d'espionnage, c'est un cas
un
absolument
grands,
énorme
ouais.
De quelqu'un. Alors lui, il n'était pas tout à fait au KGB, il était au GRU, qui est la branche militaire de l'espionnage. Et s'est mis à travailler pour les Anglais, spontanément, par à pas sans doute financier.
Et mais quand même, vous dites que c'est peut-être grâce à lui qu'une guerre n'a pas éclaté.
Qu'une guerre n'a pas éclaté.
Oui.
Parce
qu'il y avait l'affaire de Cuba, il me semble.
Oui, alors, il transmettait des données sur les missiles russes,
oui.
Soviétiques. Sauf que ces données, en fait, là, les historiens sont partagés. On ne sait pas tout, évidemment. Parce que, encore une fois, on n'entre pas dans les archives du KGB comme dans un moulin. C'est pas possible. Même des affaires vieilles de 50, 60 ans, on n'y a pas accès.
Même donc, quand le communisme s'est effondré, ils n'ont pas ouvert leur dossier
non.
comme on l'a fait
non.
en Allemagne. Par
même
exemple.
La famille, moi, nous, on n'a pas eu accès
au dossier
à l'instruction
de,
ah. qui a précédé l'arrestation de mon père. On a eu accès aux témoignages après et aux interrogatoires après arrestation, mais l'instruction, c'est-à-dire comment ont-ils fait pour mmh. retrouver précisément la trace, quels les noms des indiques qui ont cafeté, ça, on ne l'a pas,
ouais.
on ne l'aura jamais.
Ouais.
Le KGB ne donnera rien. Est complètement hermétique, y compris des années 20. C'est-à-dire vous n'aurez jamais accès à ces informations.
Ah oui, c'est étonnant, étonnant. Oui, oui parce que on suppose que Penkovsky a dit finalement, vous croyez qu'ils sont extrêmement armés, extrêmement au point, mais ils ne le sont pas tant que ça.
Oui, alors il a livré les systèmes de commandement,
ouais.
Tous les noms des grands postes, enfin, les fusées, ça appartient à l'artillerie, donc c'est artillerie et force cosmique.
Mmh.
Et il a livré en gros les éléments techniques de l'organisation de l'Union soviétique à ce moment-là. Les historiens se disputent quant à la valeur réelle de ces infos. C'est-à-dire qu'on est certain qu'il a pioché certaines infos juste dans des journaux, vous savez,
ah,
qu'on
d'accord.
trouve dans, oui. dans les académies militaires. Donc, ce n'est pas du top secret absolument incroyable. Mais parce qu'il était sans doute attiré par l'appât du gain. Et donc, plus il fournissait d'informations à ses,
plus il était rémunéré.
Voilà, oui. à ses interlocuteurs du MI6, plus il était, mieux il était payé, mieux il était vu. Et donc, un certain nombre d'informations étaient sans doute de médiocre valeur. Mais dans le tas, il a peut-être aussi donné des informations
oui,
capitales
oui, oui.
sur...
Oui, oui, rassurant peut-être les Américains, finalement. Bon, en tout cas, oui, il y a des scènes. Et on a parlé hors antenne de cette exposition nationale américaine qui a eu lieu, donc, en réponse, vous m'avez-vous dit, à une exposition russe, soviétique, à New York. C'était
oui.
à New York. Voilà, donc... les Américains ont été invités et là, les autorités ont fait preuve d'une grande naïveté. Ça a été un engouement. Vraiment, les Russes étaient fascinés par tout ce qu'amenaient les Américains.
Ça s'est passé en juillet 59. L'Amérique est invitée dans un énorme parc d'exposition à Sokolniki, à Moscou, à présenter ce qu'ils ont de meilleur. Donc, vous avez des stands gigantesques avec les télécouleurs, les voitures, évidemment, rutilantes de chrome. Mais vous avez aussi un stand de Pepsi-Cola qui distribue gratuitement du Pepsi-Cola.
Ouais.
Vous avez les vêtements, vous avez tout.
Et là, c'est la séduction totale.
Et dès le premier jour, c'est la folie absolu chez les moscovites. Il y a la queue, dès le premier jour, il y a 70 000 personnes qui veulent entrer au parc Sokolniki. Les gens font la queue pendant des heures. On contrefait les billets d'entrée. On essaie d'entrer en contrefaisant.
C'est de la folie.
La nuit, on creuse des tunnels sous la barrière pour pénétrer la nuit. La milice a beau colmater tout ça. On en creuse d'autres. Certains, une fois parvenu à Sokolniki, une fois au paradis, s'enferme et se cache pour rester une deuxième journée gratuitement au parc. Et puis, on boit du Pepsi, on n'en revient pas, on reboit du Pepsi et le gobelet qui a contenu du Pepsi est gardé précieusement. Il est c'est peut-être fou. Même revendu ensuite ou gardé comme une relique.
Ouais. Alors, il y a un de vos personnages, je ne sais plus lequel, qui dit « On a laissé l'opium de l'Occident arriver jusqu'à nos poumons ».
Oui, c'est exactement ça. Ils ne se rendent pas bien compte, au départ, quand ils acceptent que les Américains viennent présenter toute leur société de consommation,
oui,
en fait.
Oui.
Et ils ne se rendent pas bien compte de l'impact. Et puis, ils comprennent très, très vite que c'est un impact catastrophique sur le moral des gens, des moscovites, qui découvrent des choses incroyables. Et apparemment en production de masse.
Oui.
Ce que les Russes, bien sûr, ne verront pas avant des décennies.
Oui. Mais Igor Gran, à un moment donné, vous parlez de l'affaire de Novotcherkassk. Alors, effectivement, là aussi, il s'est passé quelque chose de terrible.
Alors oui, Novotcherkassk, c'est une grève. Alors, Novotcherkassk, c'est une ville à environ 1000 kilomètres de Moscou, et il y a une usine qui se met en grève en 1962, une grève au pays des prolétaires et du paradis prolétaire.
On leur a demandé d'augmenter leur cadence, non, peut-être ?
Oui, on leur a demandé, en fait, au même moment, les prix de la viande et du lait augmentent de 30% dans les magasins, et au même moment, on leur demande 30% de production en plus pour bénéficier à salaire égal. Et donc, les deux effets conjugués, ça fait un effet de ciseau évidemment dramatique sur le pouvoir d'achat. Déjà que dans les magasins, il n'y a pas grand-chose. Déjà qu'ils n'ont pas grand-chose comme paye, eh bien, ils se mettent spontanément en grève. C'est une grève tout à fait gentillette. Ils ne cassent rien du tout. Juste, par exemple, ils marquent à la craie sur un mur Khrouchtchev à l'abattoir, mais il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de passage à l'acte, il ne saccage rien. Et simplement, la grève se terminera deux jours plus tard par un massacre. Les autorités soviétiques font venir l'armée qui va tirer à balles réelles dans la foule, à la mitraillette. Et il y aura 25 morts et dans les 200 blessés. Ensuite, la ville sera mise sous couvre-feu total. On ne saura... il y aura même des brouilleurs d'ondes radio qui seront installés tout autour. Des fois qu'il y a un radio amateur commence à se mettre à communiquer avec l'extérieur et raconte ce qui s'est passé à Novotcherkassk. Les services compétents, le KGB, là, est vraiment mobilisé à 100% puisqu'ils ont une discussion pratiquement avec chaque habitant des rues avoisinantes pour voir qu'est-ce que vous avez entendu et être sûr que personne ne va parler.
Mais alors, ce que je trouve étonnant en lisant votre ouvrage, je me suis dit, mais quel temps et quelle énergie il dépense à camoufler.
Bien sûr.
C'est incroyable.
Bien sûr, et c'est une des explications de la fameuse énigme que je me suis posée, c'est pourquoi ils mettent autant de temps à arrêter mon père, c'est qu'ils dépensent leur temps à faire 50 000 choses qui n'ont rien à voir avec la chasse aux dissidents. Ils sont débordés. Voilà, comme une vraie bureaucratie en réduction d'effectifs. En plus, ils sont réellement en réduction d'effectifs après la mort de Staline. Eh bien, ils sont au four et au moulin.
Parce qu'ils surveillent tout le monde.
Oui, aussi bien le type qui deal un stylo bic que celui qui essaie d'échanger des devises, des francs par exemple, contre des roubles avec un cours intéressant, que celui qui veut passer un livre interdit de Pasternak, le docteur Jivago, qui le fait entrer en Union soviétique, qui va le prêter à ses amis. Ça aussi, tout ça, c'est interdit. Donc, ils passent leur temps où à ouvrir des lettres. Si vous envoyez une lettre de Moscou en Occident, elle est bien évidemment bloquée à la poste, au bureau de poste.
Il y a une étuve, il y a tout.
Oui, il y a une machine, je me suis renseigné, c'est passionnant hein, d'ailleurs. Comment fait-on? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui envoient des lettres à l'étranger. Eh bien, 100% des lettres doivent être interceptées et ouvertes dans une machine à vapeur qui décolle le rabat et ensuite...
Et qui utilise la même colle.
Oui, donc les agents en question, c'est une armée, hein, où sort la lettre, la déchiffre. Si elle est en langue étrangère, en français par exemple, eh bien, il y aura des spécialistes qui vont la traduire. Et ensuite, on va la remettre bien soigneusement. S'il n'y a rien de compromettant, bien sûr, on va la remettre bien soigneusement. On va recoller l'enveloppe
et ça va partir. Pour nos auditeurs, une anecdote, je trouve ça très drôle. Il y a un petit malin qui avait envie vraiment de les ennuyer, qui a cousu la lettre à l'enveloppe, à petits points, qu'ils ont défait.
À la machine à coudre, oui,
je crois.
Oui, oui. Et ça ne les a pas arrêtés du tout. parce que si quelqu'un passe son temps à mettre une enveloppe à la machine à coudre, ça veut dire que c'est sacrément secret et donc raison de plus pour l'ouvrir.
Exactement.
Donc ils ont passé des mois à essayer de le défaire sans la déchirer. Et puis bon, ensuite, elle n'a jamais poursuivi son cours, cette lettre.
Alors, Yegor Gran, nous allons faire une pause musicale. C'est vous qui avez choisi. Il s'agit, alors vous allez dire le nom parce que je ne l'ai pas retenu.
Il s'agit de Vladimir Vysotsky, qui est un barde très connu, qui est une sorte aujourd'hui d'idole en Russie. Qui passait son temps à chanter juste à la guitare avec une voix très très rauque, vous allez l'entendre, sorte de tempête en mer Baltique, et des chansons de voyous.
Oui, voilà, nous écoutons.
Из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Из-за ели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают сыторботы, кровь на снегу и пятна красные в башков. Не на равных играют с волками егеря, но не тронет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции. Видно, в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, лают сыторводы, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous reprenons notre entretien avec Yegor Gran, qui a écrit Les services compétents, paru aux éditions POL. Les services compétents, évidemment, c'est le KGB en URSS dans les années 50-60. Ça s'est arrêté,
Mon récit s'arrête en 66, en fait, un peu plus tard, mais... à l'arrestation, en gros, et au procès de mon père.
Alors, le pauvre Ivanov, le pauvre lieutenant Ivanov, s'échine à découvrir qui se cache derrière un écrivain qui se fait appeler Abraham Terz. Là aussi, c'est très drôle parce que, en France, ils ont été très bons parce que pour égarer, ils ont dit qu'il était juif, ils lui ont donné un prénom juif, Abraham.
Ah, c'est pas les Français, c'est lui-même.
C'est lui-même, oui,
pardon. Qui s'est choisi ce pseudonyme. Alors, il l'a pas fait par perversion, il l'a juste pris dans une chanson de voyous qui circulait beaucoup à Odessa. Mon père a toujours aimé le folklore plutôt des bandits, etc. Et il aimait beaucoup cette chanson. Il s'est dit, bah tiens, mon pseudonyme, ça sera Abraham Terz.
Voilà. Et alors polonais, parce que enfin polonais, c'est le nom qui est polonais.
Non, alors ensuite, alors ça c'est la première fausse piste. Hein. Alors oui. c'est important, c'est une fausse piste très importante parce que en Russie, en URSS, il y a un antisémitisme un peu latent. Et jamais...
On peut dire un racisme, même.
Oui, bien sûr.
Parce que je crois que...
Jamais un agent des services secrets ne pensera qu'un Russe, un vrai Russe, prendra un pseudonyme juif. C'est impossible. Ça fait partie... Ça sort de la raison. Mmh. Et donc, ils vont, bien sûr, au départ, chercher Abraham Terz parmi les intellectuels juifs. Voilà. La deuxième fausse piste que met mon père à Essian dans ses écrits, il fait exprès de mettre des références, soit des écrivains, soit Le Mot, Varsovie, soit voilà, des références à la Pologne, sachant très bien que ces textes seront décortiqués par encore une fois, les services compétents qui vont lire tout ça, qui vont compter les occurrences, faire une analyse sémantique de ce qui est dit pour essayer de comprendre qui est cet intellectuel, pour essayer de cerner son champ d'activité. Et donc, ils vont tomber sur ces occurrences répétées de Varsovie, Pologne. Ils vont en déduire qu'il a un rapport avec ce pays. Or, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Il va aussi semer un leurre géographique.
Oui, sur la ville.
Sur la ville. Ça c'est les Français qui le répètent très, très bien. En fait, il dit qu'il est de Leningrad. Il fait des références sans arrêt des musées de Leningrad, ce genre de choses. Et les services du KGB pensent le chercher là-bas, alors qu'il est à Moscou.
Alors, ce qu'on apprend aussi, et je ne pense pas que vous l'ayez inventé, c'est qu'il y a un touriste du Parti communiste français qui écrit une lettre au KGB, je suppose, pour dénoncer les pratiques de certains jeunes gens pour commerce illicite et achat de produits de l'Ouest. Et alors, il dit sa déception devant l'incivisme de ces jeunes gens. C'est incroyable quand même. Et alors, parce que figurez-vous que quand j'étais étudiante, j'ai des copains qui sont partis en voyage d'études, ils venaient d'une école d'ingénieurs en Russie, et ils disent, ben oui, finalement, on manquait de roubles, alors on a vendu nos chemises ou nos stylos billes, vous parliez des bics, mais... Et alors là, j'ai dit à l'un d'entre eux, qui est devenu mon mari d'ailleurs, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte que vous pouviez mettre en prison? Et en fait, il ne se rendait pas compte. Il ne se rendait pas compte que ça pouvait aller très loin, en définitive. La preuve dans votre
Oui, alors ils écrivent, alors, sauf les Français là, en question, ils écrivent des lettres alors, à la direction de Intourist. Intourist, c'est l'agence qui organise les tours. C'est forcément, il n'y a qu'une seule agence qui a le droit de faire venir les étrangers et de leur
avec
faire visiter le
sous
pays.
Contrôle.
Voilà, avec des guides traducteurs, traductrices, qui sont évidemment, qui chaque jour, à la fin de la journée, rendent un contrôle minutieux de, on va dire, voilà... Pierre a dit ceci, cela, Paul a fait ceci, cela, et Jean s'est permis de... voilà. Donc ils rendent ce en fin de journée. Voilà. Mais il y a beaucoup de sympathisants du Parti communiste français qui font aussi le voyage un peu de pèlerinage dans la patrie du socialisme, qui vont visiter le mausolée.
Plus tard, on a eu Georges Marchais quand même.
Oui, bien sûr, mais tout le monde se rend un petit peu dans cette Mecque. Voilà. Et ils sont étonnés de voir qu'on les aborde dans les bus qui les ramènent de l'aéroport pour leur proposer d'échanger des francs contre des roubles. À l'hôtel, dès qu'ils sont à l'hôtel, on se précipite. Si vous êtes une femme, on vous demande « mais vous n'avez pas du rouge à lèvres, vous n'avez pas même un tube usagé, c'est pas grave ».
Mais la question que je me pose, c'est que tous ces touristes se sont bien rendus compte que les magasins étaient vides.
Et oui et non, parce qu'en fait, on les balade dans des magasins spéciaux réservés aux touristes, aux étrangers, où ils peuvent acheter en devises, payer en devises. L'État soviétique était très demandeur de devises. Et donc, tout ce qu'ils pouvaient vendre ou essayer de retirer de ces étrangers était bon à prendre.
Oui. Vous racontez une anecdote qui montre la terreur qu'a inspirée Staline. une anecdote, Staline est mort. Je ne peux pas m'empêcher de rire parce que on vient, il a, sur sa vareuse, il a des boutons en or et ils vont être coupés et remplacés. On fait appel à quelqu'un du KGB qui sait coudre, mais...
Voilà, ça c'est au moment où on l'enlève du mausolée.
Oui, oui, parce départ, que là, il a plus la cote du
voilà,
tout.
Hein. Au départ, Staline, est, quand il meurt en 1953, on le met au mausolée avec Lénine, à côté de Lénine, pareil, dans un sarcophage en verre. Et là, il a tous ses boutons en or voilà, sur son uniforme. Mais ensuite, on va décider, Khrouchtchev va décider que il y a eu la déstalinisation, il y a eu le 20e congrès, où on met en évidence les crimes de Staline, oui, et oui. Ce n'est plus... digne d'avoir Staline au mausolée. Donc, on va l'enlever. On le fait la nuit, hein, d'ailleurs, pour pas que trop qu'on le remarque. Et donc, la nuit, la place rouge est cernée. On sort Staline de son sarcophage. On l'ouvre et on va lui enlever d'abord sa décoration. Il a sur la poitrine une décoration, l'ordre rouge, le drapeau, la décoration du drapeau rouge du travail socialiste en or. On lui enlève et on coupe ses boutons en or qu'on remplace par des boutons en laiton.
Comment l'avez-vous su, ça ?
Ah ben ça, c'est raconté par des gens... c'est ce qu'on appelle la petite histoire, en fait. Mais
ah
cette
oui.
petite histoire...
Ah oui, parce que ça veut dire beaucoup de choses, finalement.
Oui, on essaie de l'expédier du mausolée en catimini le plus vite possible. Tous les gens qui participent à cette opération ont la trouille, parce que même 8 ans après sa mort, ça se déroule en 61, 8 années après sa mort, ce type, cet ogre qui est couché là, inspire la trouille. Et ensuite, les Russes aussi se doutent bien que ça, c'est un courant aujourd'hui, mais peut-être que demain, ça va s'inverser. Et finalement, ceux qui ont osé sortir Staline du mausolée vont se retrouver dans une fort mauvaise posture. Ça se fait très très vite, très, très rapidement, tout le monde a peur. C'est de la petite histoire qu'on retrouve en cherchant de la documentation, et les historiens le savent, mais malheureusement ça n'a jamais été vraiment décrit, je trouve, et c'est quelque chose qui manque.
Et dans votre, il y a énormément d'anecdotes, pas de petites histoires, parce qu'il y a des choses bien, bien importantes qu'on ne peut pas toutes raconter, bien entendu. Évidemment, Gagarine, le héros, ça on se doute bien qu'il ne pouvait être qu'un héros, et puis bon, ils ont été forts, il faut reconnaître.
Bien sûr, il avait 50% de chances d'y rester. Oui, c'est Korolev lui-même, le chef du programme spatial soviétique, qui a estimé les chances de survie à 50%.
Donc, pile,
vous mourrez carbonisé, face, vous êtes un héros.
Voilà, il s'en est sorti, il a eu droit à un rasoir électrique quand même.
Oui,
il a eu droit à une...
Alors, je la reproduis dans mon livre, la liste des effets qu'on va lui offrir en fait, à ce surhomme. Qui est célébré d'ailleurs pas seulement en Union soviétique, il est célébré partout. Il va venir en France, à Ivry-sur-Seine.
Oui, c'est un héros.
Il va venir en Amérique, on va l'accueillir sur la 5e avenue sous les drapeaux. Des confettis. il faut lui donner une récompense. Et cette récompense, il y a un document secret qui va sortir. Donc c'est une liste absolument. Qui semble absolument dérisoire. On va lui offrir des paires de chaussettes, on va lui offrir des maillots, on va lui offrir des slips.
Mais un appartement quand même.
Oui, un appartement, une voiture, un rasoir électrique. Oui. On va lui offrir une radio avec tourne-disque incorporé. Oui.
Mais ce que vous énumérez, c'est quand même également, on se rend compte que ce sont les privilèges des apparatchiks, de toute la nomenclature de l'époque, les cadres du gouvernement, du Parti communiste, les membres du KGB, ils ont droit à un appartement aussi, non ?
Oui, alors quand on est lieutenant, on a droit à rien, à pas grand-chose. Mais quand on monte dans la hiérarchie, bien sûr, on accède à des privilèges. C'est une société qui se veut anti-privilèges, mais qui en fait n'est pas du tout. Vous avez
comme une monarchie,
une caste qui accède à tout et les autres n'ont rien.
Oui.
Mais ce qui est étrange dans cette liste d'offrandes, enfin de cadeau que l'on fait à Gagarine, c'est qu'on confesse par la même occasion que le fait même d'avoir des slips est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que c'est un pays, en 1960, 61, 62, quand vous sortez au magasin faire vos courses, vous ne savez absolument pas ce que vous allez trouver dans les magasins. ce n'est pas qu'ils sont vides.
C'est la fortune.
C'est que vous ne savez pas, vous allez acheter des oranges, vous allez peut-être tomber sur des bananes. Mmh. Ça, c'est le jackpot. Mmh. Vous avez des bananes qui viennent de Cuba. Ça, c'est formidable. Mais peut-être que vous n'aurez pas de banane, peut-être que vous aurez un autoradio. Mais vous avez donc la radio qui va dans la voiture, mais vous n'avez pas la voiture. Donc voilà, donc vous ne savez jamais rien.
Ouais. Alors, vraiment, Yegor Granan, ce qui frappe quand même en lisant votre ouvrage, c'est de voir l'aveuglement, la bêtise parfois aussi, qui anime ces personnes.
Vous voulez dire les agents du KGB ? Ouais. Bah, ils sont humains. Et donc, tant mieux aussi. Donc, ils partent sur des fausses pistes. Ils sont aussi un petit peu bêtes, mais ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils mettent en place leur réseau d'indics est extrêmement efficace. Il se trouve que là, ils se cassent un peu les dents. Ils mettent beaucoup de temps, mais ils finiront par l'avoir. Par l'arrêter, mon
mais
père.
Mais entre eux, il y a une forme de servilité. Enfin, avec la hiérarchie, vous me direz, bon, on le voit partout, un peu, on peut le voir partout.
Oui, alors ça, c'est. Et à partir du moment où vous avez une organisation, il est évident que le sous-chef regarde le chef avec sans doute admiration, un peu de jalousie, ou les deux.
Et la délation est partout, on en a parlé. Et il y a ce délateur professionnel affreux, Monocle, et qui est très futé, lui.
Oui, alors Monocle, c'est son surnom.
Très malin, très, très malin.
Oui, alors Monocle, c'est son surnom, ce qu'il faut dire.
Il a existé.
Oui, absolument. D'ailleurs, à la fin du livre, je donne toutes les références. Hein, donc, c'est le seul dont je ne donne pas le nom véritable, tout simplement parce que sa famille vit encore et je n'ai pas envie de... Ouais. Voilà. Mais on peut se renseigner, ceux qui veulent connaîtront son nom s'ils consultent la bibliographie à la fin de l'ouvrage. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que tous les agents, tous les indics du KGB ont un surnom et qu'ils choisissent eux-mêmes. C'est marqué dans le manuel à l'école, à Subdeca. Hein, quand vous entrez à Subdeca, dans le manuel comment recruter et former les indics, il est marqué noir sur blanc, vous devez laisser votre indic choisir lui-même son surnom. Pourquoi ? Parce que vous créez un climat de connivence et de secret. Vous l'entraînez, vous lui dites, en gros, vous faites partie de l'élite, vous entrez avec moi dans un univers où vous êtes en sous-marin, vous observez et voilà, vous participez à la grande aventure des services secrets, ce qui est extrêmement flatteur. Et donc, Monocle, lui, choisit comme pseudonyme Monocle. Alors, c'est une ordure de première espèce. Il fait ça, pas pour l'argent, il fait ça par goût de la provocation. Il fait pas ça par idéologie non plus.
Il est machiavélique. Hein.
Absolument. C'est quelqu'un qui va chercher la provocation. Par exemple,
oui.
Vous serez avec lui, il va dire, si vous vous baladez avec lui, il va dire, ah mais regarde le nouveau billet de banque, tu ne trouves pas que Lénine a l'air figé sur les nouveaux
pour
billets de banque ?
Pour faire parler.
Oui, et vous, naïvement, vous allez dire, ah bah oui, tu as raison, il est de profil, le bas-relief, il a l'air complètement figé, genre monstre froid. Bam, ça y est, il vous a piégé et il y aura une dénonciation, bien sûr, qui sera faite et vous serez convoqué ou vous travaillez davantage aussi. Il peut accumuler autour de vous vraiment un vrai filet construit autour de vous.
Oui, alors justement, il évolue dans un milieu, parce qu'il est intelligent, il est cultivé, il évolue dans un milieu d'artistes.
Oui, alors ça, c'est un indic capital. Vous savez, les agents du KGB, c'est des braves types, mais ils ne lisent pas beaucoup. Le KGB n'est pas connu pour former...
Un peu fruste, certains même.
Voilà. Et donc, face à des intellectuels, ils sont un peu perdus. Mmh. Quand ils vont faire, par exemple, une perquisition et qu'ils se retrouvent devant un mur de livres...
Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas ?
Oui, mais bien sûr. Et vous avez des poésies formalistes où vous ne comprenez pas. Déjà, la première phrase, vous ne comprenez pas ce qui est marqué. Alors, est-ce que c'est anti-soviétique ou pas anti-soviétique ? Ils n'en savent fichtre rien. Mmh. Donc, il leur faut des gens de l'intérieur qui vont les informer sur, chez X, regarde à la troisième étagère en bas, tu trouveras ce livre-là. Ça, c'est un livre anti-soviétique. Et surveille bien cette poésie-là. Elle est à contenu anti-soviétique. Et donc, ce sont les yeux des services, ces indics.
Oui, oui.
Sans eux, ils ne pourront jamais
dans
retrouver.
Dans un monde où on pense que Pollock, c'est du barbouillage puéril, Picasso, n'en parlons pas, Pasternak, obligé de refuser son prix Nobel, même Khrouchtchev n'y avait rien compris, hein.
Oui, alors Pasternak, c'est une énigme. Que faut-il faire avec Pasternak ? Alors, d'un côté, on publie ses poèmes, Mais de l'autre côté, ce type a fait passer un manuscrit, Docteur Jivago, en Italie, au même moment d'ailleurs, il le fait passer en France. Mais, et donc ça, c'est pareil, c'est un tabou, c'est un interdit. Donc d'un côté, on le matraque. Donc nous sommes, pareil, dans les années 58-59. D'un côté, on le matraque parce qu'il a fait quelque chose d'interdit, mais d'un autre côté, on ne peut pas le taper trop fort parce que les intellectuels du monde entier alors se lèvent comme un seul homme. Ils disent « Oh là là, vous voyez, vous êtes super méchant avec un écrivain. »
Ils sont coincés.
Voilà. Et donc, et c'est le moment où, voilà, l'histoire hésite, en fait. Et eux, ils hésitent. Faut-il être plus répressif ou moins répressif? Faut-il faire de la formation, peut-être? Récupérer ces brebis galeuses? Leur expliquer? Ils ne savent pas, l'histoire hésite. Et c'est ça qui était passionnant. Oui. C'était de raconter la période où on va...
Après, oui. Par exemple, avec 8,5, le film de Fellini, finalement, Khrouchtchev le voit, bon, il comprend pas trop.
Il s'endort.
Oui, il s'endort.
Il s'endort dans la projection.
Et donc, ils disent, bon, ben, ça peut passer. Et puis finalement, quand ils voient l'engouement, justement, auprès d'un certain public, ils vont le retirer, parce que c'est quand même suspect.
Bah oui.
La population qui l'attire, ce
8,5,
film.
8,5, ils sont coincés. Il a participé au festival du film de Moscou, il a remporté le premier prix du festival du film de Moscou. Alors, ils peuvent pas l'interdire, ça serait bizarre. Et donc, ils sont un peu paniqués. Et Khrouchtchev dit, bon, bah, je vais tester sur moi. il s'assied bravement dans un fauteuil face à 8,5. Au bout de 10 minutes, il s'endort. Il se réveille à la fin du film et dit, bon, bah, si moi, je me suis endormi, c'est que vraiment, on ne risque rien. Le paradoxe, c'est que ça crée des embouteillages devant les cinémas. Et là, ils se disent, ils voient des choses que nous, on n'a pas vues. Et là, on ne sait jamais. C'est le principe de précaution, en fait.
Bien sûr,
le principe
bien sûr,
de précaution,
voilà,
c'est de l'interdire, en fait. Et donc, on l'enlève des cinémas et des petits malins, au même moment, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des auto-entrepreneurs, avec la complicité des gens qui travaillent chez Mosfilm, donc la grande entreprise qui gère tout le cinéma, vont récupérer des copies de 8,5 et vont faire des projections privées dans des sous-sols, moyennant finances. Et évidemment, ça c'est très 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 mal vu aussi. Et donc le KGB va chasser aussi ces gens-là.
Alors, Yegor Gran, il ne nous reste plus que quelques minutes. Évidemment, vous avez dit d'un mot la difficulté de l'accusation, parce que accuser de quoi exactement? Ça paraît tellement puéril. On se dit, comment une population qui a donné de grands noms à la littérature, à la musique, on se pose la même question pour l'Allemagne, hein, d'ailleurs, pour d'autres choses, a pu s'enfoncer dans un tel océan d'absurdité?
Ah bah, là, c'est pas la population qui s'est enfoncée, c'est le système de gouvernement qui l'a enfoncé. C'est au départ, la révolution soviétique n'est pas faite par le peuple. C'est un groupuscule les bolcheviques est un groupuscule qui saisit le pouvoir, s'empare du pouvoir et qui va gérer ensuite très vite. Le pays d'une main de fer absolument vous avez parlé des millions de morts, oui, ce sont des millions de morts qui vont suivre. Donc la Tchéka, l'ancêtre du KGB, est créée par Dzerzhinsky dans les mois qui suivent la révolution, et cette Tchéka sera évidemment le fer de lance de la répression. C'est un génocide de classe, hein, qu'on va commettre. C'est-à-dire, on va vous exterminer parce que vous appartenez à une classe autre que la classe prolétarienne, ou parce que vous êtes indifférent. C'est-à-dire, le grand dogme aussi, c'est si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc, si vous n'êtes pas avec les communistes, vous êtes contre. Donc, à partir de ce moment-là, vous risquez.
Avec l'effondrement de l'URSS, on a eu quand même un brin d'espoir en se disant, enfin, cette chape de plomb va se lever. Et finalement, il n'en est rien. Mais alors, en revanche, il y a la Russie sous Poutine. L'ouvrage de l'historien Jean-Jacques Marie, je ne sais pas si vous le connaissez, décrit un pays de faux-semblants, perçu à l'extérieur comme puissant, menaçant et impérialiste, et qui en réalité serait un régime faible, corrompu et presque à bout de souffle. C'était peut-être un peu ça avant aussi.
Alors, à bout de souffle, je ne dirais pas.
Non.
Mais alors, corrompu et faible, oui, bien sûr, c'est un régime de mafieux. Qui ont pillé le pays d'une manière absolument gargantuesque, qui se sont baffrés. mais qui continue à se baffrer et qui célèbre le nationalisme russe qui revient en force aujourd'hui avec des statues de Staline qui sont de nouveau érigées un peu partout avec le culte. Alors c'est assez rigolo parce que il y a le culte aussi aujourd'hui du passé communiste, comme il y a le culte du passé tsariste. Donc les deux se marient, avec, sous la bénédiction de l'Église orthodoxe, qui joue les espèces d'unificateurs incroyablement corrompus aussi.
Il joue sur tous les tableaux.
Oui, oui, pour piller ce pauvre pays, en fait.
Voilà, alors les services compétents, c'est une époque, mais maintenant, il y a d'autres services compétents et incompétents, on peut le dire aussi.
J'espère qu'ils seront incompétents.
Voilà, alors merci beaucoup Yegor Gran.
Merci
à vous.
Je
rappelle que votre roman est édité chez POL, les services compétents. Au revoir.
Au revoir.